Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors vous le savez, il est à mes côtés tous les jours après ses consultations, c'est de vous, auditeurs d'Europe 1, qu'il vient prendre soin. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Docteur Jimmy Mohamed, excusez-moi,
mais j'ai
des familiarités,
oui,
tout ça.
Ça me va très bien.
Très bien. Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler des maux de l'hiver, une émission en partenariat avec le magazine Tempo Santé. La saison automnale et le début des températures plus fraîches sont propices à la circulation de nombreux virus dont on se préoccupe peu habituellement, mais là, la donne a changé avec l'épidémie de coronavirus. Alors comment différencier un simple rhume de signes plus alarmants ? Soyons plus vigilants, sans parano, face à une toux, des symptômes gastriques. Quand faut-il consulter ? Pour répondre à toutes vos questions et passer un hiver le plus en forme possible, deux invités sur notre plateau aujourd'hui, Sylvia Pinoza, rédactrice en chef du magazine Tempo Santé, ainsi que le docteur Antoine Piau, médecin gériatre au CHU de Toulouse. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on fera un focus cet après-midi sur la luminothérapie. Se soigner, se faire du bien grâce à la lumière, mais pas n'importe laquelle, on vous précisera tout ça. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo comme tous les jours. Aujourd'hui, elle nous dira tout sur la lubrification féminine.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, on va démarrer par un coup de gueule aujourd'hui, celui de Céline Lisraoux. Elle est directrice de l'association Rose Up, une association qui défend les droits des femmes atteintes par le cancer. Alors, dans le contexte actuel, de nombreuses patientes sont évidemment très inquiètes quant à leur prise en charge, notamment certaines opérations sont déjà déprogrammées. On écoute l'inquiétude de Céline Lisraoux.
Les premières annulations, elles ont eu lieu vendredi dernier pour des actes de chirurgie qui devaient avoir lieu lundi. Donc ça veut dire qu'on a informé des femmes qui avaient quand même des chirurgies assez lourdes quasiment la veille pour le lendemain. Nous, dans les chirurgies annulées, on a plusieurs témoignages de femmes qui sont des femmes qui sont porteuses du gène BRCA. Vous savez, c'est ce gène qui prédispose à avoir un cancer du sein. Et c'était des chirurgies prophylactiques, c'est-à-dire qu'elles devaient se faire enlever les deux seins pour évidemment ne pas développer de cancer. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des cancers aujourd'hui, ça veut dire qu'elles ont de très forts risques d'avoir un cancer. C'est un peu comme si vous avez dans le corps une grenade dégoupillée qui va exploser à tout moment. Donc, au jour J, effectivement, elles n'ont pas de cancer. Donc, on peut leur dire, votre opération, c'est une opération préventive. Mais si on fait ce genre d'opération à des femmes, et je vous assure que se faire enlever les deux seins, ce n'est pas une partie de plaisir. Elles ne le font pas juste pour changer de paire de seins, et elles le font parce que c'est extrêmement grave ce qu'elles ont et c'est extrêmement angoissant. Donc, ne pas faire ces opérations, c'est évidemment une perte de chance pour ces femmes-là, parce que pendant tout le temps qu'elles ne font pas leurs opérations, le risque d'avoir un cancer qui se crée est réel.
Qu'est-ce que vous demandez alors justement aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Pour éviter de se retrouver avec une multiplicité d'informations suite aux femmes qui avaient des chirurgies annulées, on a tiré les leçons du premier confinement et on a décidé de créer une plateforme qui est donc sur notre site rose-up.fr, qui est une plateforme de déclaration de tous les retards pour pouvoir au cas par cas trouver la meilleure des solutions.
C'était donc Céline Lisraoux au micro de Benjamin Lévesque. Et donc on rappelle le nom de cette plateforme pour signaler les retards, les annulations éventuelles de vos interventions. Pour vous, patientes, c'est donc rose-up.fr. Alors on va passer à notre vrai faux, les questions que vous nous laissez au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va prendre la question de Cyril.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. Alors je me suis tordu la cheville et ça a craqué, j'ai entendu le bruit. J'arrive toujours à poser mon pied. Est-ce qu'il faut quand même que je consulte ?
Jimmy, une cheville qui craque, est-ce que c'est forcément une urgence ? Est-ce que ça veut dire qu'il s'est passé quoi d'ailleurs ?
Alors ça veut dire qu'évidemment que vous êtes fait une entorse, il faut rappeler ce que c'est lorsque vous avez des ligaments. Un ligament, c'est une forme d'élastique qui va relier deux os. Et bien, lorsque vous faites une entorse de cheville, vous tordez la cheville, ce ligament va se tendre, va s'étirer et parfois se rompre. Ce qui va marquer.
Là que ça craque.
Et c'est là que ça craque. C'est le signe d'une entorse grave pour laquelle vous allez avoir très mal. Et souvent, les médecins vous demandent, avez-vous entendu un craquement, signe d'une entorse grave qu'il va falloir prendre en charge.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence soi-même, là, quand ça vient de craquer ? Est-ce que vous mettre de la glace, du chaud, du froid, j'en sais rien,
alors,
surélever la jambe ?
La première chose, même si vous n'entendez pas de craquement, notamment lorsque vous faites du sport, si jamais vous faites une entorse, il faut arrêter l'activité physique. Souvent, je vois des patients qui me disent, j'ai eu mal à la cheville, mais comme le ligament est chaud, et bien sûr,
j'ai continué.
Ils continuent et donc ils vont forcer sur la cheville. Donc la première des choses, c'est d'arrêter votre activité. Puis ensuite, c'est d'essayer de s'immobiliser, de s'allonger s'allonger, de surélever un peu la jambe pour que l'hématome présent remonte un petit peu en arrière.
Si on est au milieu de la forêt, on fait comment, Jimmy?
Eh bien, on essaie.
Bien rentrer,
il faut rentrer. Et à la maison, il faut mettre de la glace. L'hématome va permettre de limiter l'hématome. Et puis, on prend quelque chose contre la douleur. Et puis, éventuellement, on consulte, puisque parfois, il faut faire notamment des radios.
J'allais vous dire, il faut consulter quand même. C'est une urgence, le médecin généraliste, ou on file directement à l'hôpital?
Alors, c'est un motif très fréquent de passage aux urgences. C'est un peu moins de 10%. C'est 6000 entorses par jour, quand même, de personnes qui vont se tordre la cheville. Et donc, ils vont forcément consulter parfois aux urgences à tort, puisqu'elles ont besoin malgré tout d'une radio, pas spécialement dans l'urgence. L'arrachement osseux ou la fracture reste rare malgré tout. Mais néanmoins, le médecin vous prescrit souvent une radio pour être sûr qu'il n'y a pas d'arrachement, et parfois une échographie pour être sûr qu'il n'y a pas ces atteintes ligamentaires, notamment lorsque vous attendez ce craquement.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Cyril qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir nos deux invités pour le dossier du jour. Aujourd'hui, une émission en partenariat avec le magazine Tempo Santé, consacrée aux maux de l'hiver, Covid et même surtout hors Covid. Comment différencier les symptômes, justement? On y revient très très vite et c'est sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir nos deux invités pour ce dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé. On va commencer par vous, Sylvia Pinoza, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes
bonjour
rédactrice en chef de Tempo Santé. Vous avez donc coordonné le tout dernier numéro qui est en kiosque en ce moment. Un numéro plus qu'utile dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce numéro, Sylvia?
Ben, on va trouver beaucoup de choses, notamment pour être au fait de ce qui, des symptômes de, voilà, des maux de l'hiver et de la Covid, pour ne pas se tromper et pour avoir une prise en charge la plus efficace possible. On va aussi avoir plein de sujets qui vont nous permettre de vivre peut-être plus sereinement ce confinement. On va apprendre notamment à pratiquer une activité physique à la maison sans pour autant faire du sport. Donc on vous dira comment se tonifier sous la douche, doper ses abdos en télétravaillant, par exemple.
Ça vous intéresse, ça, Jimmy?
La douche ou les abdos? Non, mais c'est moi tranquille, les abdos peut-être, la douche.
Vous imaginez bien que je pensais aux abdos.
J'ai une hygiène parfaite, hein, oui, non, très bien. Non, mais les abdos, pourquoi pas?
Très bien. Merci Sylvia. Alors
voilà,
notre deuxième invité, c'est vous, docteur Antoine Piot. Vous êtes gériatre au CHU de Toulouse et vous êtes également l'auteur du livre 24 heures dans la vie du corps humain, publié aux éditions du Rocher. Docteur Piot, en ce moment, on est donc en fin d'année, on a tendance à l'oublier avec le Covid, mais des virus respiratoires, il y en a toujours eu à cette saison et il y en a plein d'autres qui circulent malgré tout aujourd'hui.
Alors des virus respiratoires ou non respiratoires, il y en a plein, il y en a tous les ans. Le métapneumovirus, adénovirus, rhinovirus, la grippe, etc. Il y en a qui sont dangereux d'ailleurs. L'avantage, c'est que cette année, on n'en voit pas trop pour l'instant, notamment on ne voit pas encore trop de grippe, et c'est peut-être grâce, entre guillemets, au Covid, parce que finalement, c'est la même méthode pour combattre tous les virus, notamment l'hygiène des mains, mais je pense qu'on va en reparler.
Justement, Sylvia Pinoza, il y a une bonne nouvelle, c'est que 92% des Français affirment respecter les gestes barrières, et comme on le disait, c'est que peut-être que le virus du Covid va prendre un peu le dessus sur les autres virus respiratoires qu'on va peut-être un peu moins voir cette année.
Oui, c'est un peu ce que disait le docteur Piot, et puis ça, on l'a déjà remarqué dans l'hémisphère sud, où on a vu que les virus de l'hiver avaient été beaucoup moins virulents et présents cette année. On sait aussi que le virus est le SARS-CoV-2 est aussi un virus extrêmement contagieux, qu'une personne infectée pour en infecter trois. Donc les mesures barrières sont plus que jamais d'actualité.
Docteur Piot, est-ce qu'on sait pourquoi tous ces virus respiratoires, donc vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, mais donc au coronavirus, rhinovirus, etc., pourquoi ils sont particulièrement virulents, ou en tout cas on en entend autant parler en hiver, ils aiment le froid particulièrement?
Alors, là je vais être super prudent, parce qu'en réalité la saisonnalité des virus et des maladies en général, c'est quelque chose de très peu étudié. L'hypothèse la plus consensuelle, mais qui n'est absolument pas démontrée, ça serait plus de promiscuité l'hiver, donc effectivement une circulation plus facilité. Il y a plein d'autres hypothèses, mais qui sont plus ou moins fumeuses. Donc, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Mais de fait, il y a une saisonnalité des virus et des maladies en général.
Jimmy.
Sylvia Pinoza, il y a une double page dans Tempo Santé en kiosque sur toutes les questions qu'on peut se poser sur les infections respiratoires. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler comment est-ce qu'elles se transmettent de façon générale?
Alors, il y a le manuportage, on va toucher un objet, une poignée de porte qui a été infectée, puis on va porter sa main à sa bouche, à son nez, à ses yeux, et on va et ça va être la porte entrée du virus. On va aussi être infecté par une personne qui éternue, et les gouttelettes vont venir aussi nous infecter. Et puis enfin on va les inhaler et vont venir nous infecter. Et puis il y a aussi la voie aérosol, donc ce nuage de micro-gouttelettes qui est un peu inhérente au simple fait de parler. Mais voilà, pour ces trois modes de transmission, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les gestes barrières, on les connaît. Se laver les mains, les masques, la distanciation physique, et puis bien aérer sa maison également.
Docteur Piau vient de le dire, Sylvia vient de le dire, donc trois gestes, enfin des gestes barrières, il y en a plusieurs. Le masque, le lavage des mains, on en a beaucoup parlé depuis plusieurs mois, mais c'est toujours bon de le rappeler. Comment on se lave bien les mains? Parce que moi je vois des gens qui le font moins longtemps, mes enfants ils y vont de moins en moins.
Je vais revenir un peu en arrière. Le lavage des mains c'est capital. Hein. On remonte à Pasteur. Pasteur il a changé la face de notre espérance de vie, notamment la mortalité des petits-enfants et des femmes en couche par le lavage des mains. Donc c'est pas propre au coronavirus. Et c'est plus important de bien se laver les mains que d'avoir un camion d'antibiotiques. La prévention avant tout, et ça marche pour tout. Ça marche pour les bactéries, ça marche pour les virus. Et se laver les mains, c'est à l'eau et au savon doux. Il n'y a pas besoin de 10 000 produits chimiques. Effectivement, quand on n'a pas d'eau à proximité, le gel hydroalcoolique, ça remplace, mais ça ne fait que remplacer. C'était quoi la question?
Comment on les lave bien? On veut tous les conseils pratiques.
Il ne faut surtout pas oublier la pulpe des doigts, entre les doigts, les poignets, le pouce. Il faut au minimum 30 secondes, et même 30 secondes, c'est un peu
long,
court.
C'est long en fait, 30 secondes, parce que j'ai essayé de compter tout à l'heure. C'est deux fois joyeux anniversaire, je crois.
Voilà, c'est comme le brossage des dents pour les enfants, il faut se chanter un truc dans la tête.
C'est ça.
Non, vous avez raison, il faut se laver les mains, même si ça va nous permettre d'éviter peut-être d'attraper la gastro ou d'autres virus, mais il faut rappeler quand même que dans le Covid, la contamination majoritaire, celle qui est reconnue de tous, c'est la transmission par aérosol. Donc le lavage de mains ne suffit pas, la distance ne suffit pas, il faut en plus mettre le masque
c'est
et bien aérer.
C'est pour ça qu'on le porte dans ce studio, évidemment, tous les
Exactement.
Trois.
Et Sylvia, vous faites justement un point dans Tempo Santé sur le fait, par exemple, d'avoir eu une grippe, une rhinopharyngite qui pourrait peut-être nous protéger, nous donner une forme d'immunité croisée. Alors, il y a plein de travaux qui sont un peu contradictoires, mais qu'est-ce qu'on peut en dire encore à ce jour ?
Aujourd'hui, on peut dire qu'aucune preuve d'une infection préalable avec d'autres coronavirus vont induire une immunité croisée. Donc, il faut rester vigilant, même si on a eu la grippe, si on a eu un rhume,
on n'est pas protégé du Covid.
Il faut se protéger. Voilà, il faut se protéger du Covid et.
Et même si on a eu le Covid, il faut se protéger du Covid, ça aussi, hein, docteur
encore
Piau,
une
ça...
fois.
Docteur Piau, justement, est-ce que ça veut dire cette année, parce qu'on l'attend, la grippe, vous disiez tout à l'heure, il n'y en a pas encore beaucoup, peut-être parce qu'on est très protégé avec ces gestes barrières, mais il y a la vaccination, c'est en ce moment la campagne. Tout le monde doit se faire vacciner ou toujours les mêmes? Encore faut-il trouver un vaccin, mais c'est un autre problème.
Alors, je pense qu'effectivement, il faut respecter les indications vaccinale, mais il faut être particulièrement rigoureux cette année. Alors, on parle beaucoup de la grippe, mais il y a aussi le vaccin contre le pneumocoque pour les gens qui ont des fragilités respiratoires, cardiaques. Donc, les recommandations en termes de vaccination, elles n'ont pas changé pour l'instant, mais il faut effectivement les respecter.
Quand on trouve un vaccin, parce que ça, c'est un autre problème en ce moment.
Et on va, récapituler un petit peu les différents mots de l'hiver ensuite, mais si jamais on a le nez qui coule, qu'on tousse, est-ce que, docteur, on peut s'automédiquer et éviter peut-être d'aller justement voir le médecin?
Alors, le rhume et les médicaments, ça va pas bien ensemble. Je pense qu'on va le développer un peu plus loin, mais se soigner pour un rhume, ça veut dire ne rien faire, attendre que ça passe. Et les médicaments sont largement plus dangereux dans le rhume que pas de médicaments. Et ça, c'est très largement démontré. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Merci beaucoup à tous les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous parler des maux de l'hiver qui peuvent malgré tout donner des symptômes faisant penser à la Covid-19. Alors comment justement les différencier? Quand faut-il consulter et qui? On va vous détailler tout ça juste après et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau pour cette émission en partenariat avec Tempo Santé, vous d'abord Sylvia Pinoza, enfin vous êtes en ligne avec nous, vous êtes rédactrice en chef de ce magazine et puis donc en plateau cette fois, c'est vous docteur Antoine Piau, vous êtes gériatre au CHU de Toulouse et l'auteur du livre 24 heures dans la vie du corps humain aux éditions du Rocher. Voilà, les présentations sont faites. À présent, on va passer au concret, à ces symptômes dont on peut souffrir en ce moment, soit à cause d'une maladie hivernale classique, hein, soit à cause du Covid. On va démarrer par un grand classique peut-être, le rhume. Alors Sylvia Pinoza, là pour le coup, donc le docteur Piau le disait un petit peu tout à l'heure, mais pas de quoi s'inquiéter, enfin quoique, on va voir. Par quoi s'est transmis le rhume justement ?
Oui, alors le rhume, c'est vrai qu'en général, il n'est pas bien méchant et qu'il est un peu cet incontournable de cette saison froide et humide. Mais il se transmet de la même façon que la Covid-19. Ça va être soit par des gouttelettes via des éternuements ou par le menu portage. On va toucher une zone qui est contaminée et la porter à notre nez ou à notre bouche.
Très bien.
Dans nos yeux.
Docteur Pio, Jimmy. J'ai trop de docteurs sur le plateau, là, je ne sais plus où donner
vous
de la tête.
Vous ne savez plus où donner la tête exactement. Alors, docteur, alors, c'est vrai qu'en cette période où on a le nez qui coule, il faut qu'on soit vigilant. Même un nez qui coule, ça pourrait être du Covid. J'ai un collègue qui est quelqu'un dans sa famille qui avait juste le nez qui coule. Il a été voir son médecin qui lui a dit, bah, écoutez, vous n'avez qu'un nez qui coule. À cette époque, il pensait que c'était que ça. Et finalement, c'est le Covid. Ses deux parents l'ont attrapé. L'un est parti en réanimation et l'autre en hospitalisation. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on soit vigilant. Le moindre symptôme en cette période de l'année doit nous faire au moins nous isoler, mettre un masque et puis ne pas hésiter à consulter.
Alors, c'est difficile parce qu'effectivement, il y a des présentations atypiques. La présentation nez qui coule uniquement, ce n'est pas vraiment typique du Covid. Et d'un autre côté, si on va tous chez le médecin au moindre symptôme, on va saturer le système et ça ne va plus fonctionner. Donc, c'est une question assez complexe. Donc, le nez qui coule, la rhinopharyngite typique et pas la présentation la plus typique du Covid. Et normalement, effectivement, ça passe tout seul et surtout sans médicaments, parce que les médicaments, là, pour le coup, peuvent être dangereux. Et on va peut-être en reparler plus tard des signes typiques du Covid qui, eux, pour le coup, doivent justifier une consultation et un test.
Et donc, Sylvia, pas de médicaments, on est d'accord, on vient de le dire, mais parce que tout ce qui est vendu en vente libre, bon, il y a beaucoup de publicité en ce moment, on en voit partout dans les pharmacies, justement. On ne va pas les citer, on s'en fiche, mais il y en a énormément, on peut en acheter n'importe quand. Ceux-là, finalement, ils ne sont pas du tout conseillés. Hein.
Oui, puis ça revient parfois à utiliser un bazooka pour tuer une fourmi et le remède devient alors bien pire que le mal. Donc on évite évidemment ces antirhumes, les vasoconstricteurs donc qui vont déboucher le nez en contractant les vaisseaux. Il y a eu des nombreuses mises en garde, notamment par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et pour aujourd'hui, les pharmaciens, quand ils vendent ce genre de produit aux patients, sont obligés de leur donner une notice d'information qui liste un peu les précautions à respecter et puis les bons usages. Bah, idem aussi pour les anti-inflammatoires, qui eux aussi sont en vente libre et qui peuvent avoir des effets néfastes combinés à d'autres médicaments.
Docteur Pio ?
Alors absolument, les anti-inflammatoires, par exemple, on connaît tous les risques du cerf de l'estomac, mais il y a des risques méconnus et beaucoup plus graves, comme les insuffisances rénales, qui peuvent être gravissimes, des risques cardiovasculaires qui sont plus rares. Et les vasoconstricteurs, en fait, il faut bien comprendre que c'est des médicaments qui vont vous donner une impression de nez débouché, parce qu'ils vont contracter les vaisseaux de votre nez, mais pas que ceux de votre nez.
Oui,
ils vont
contracter le cerveau, dans le cœur,
les vaisseaux du cœur, du cerveau, et ça peut augmenter le risque d'AVC, d'attaque cérébrale, comme les fameuses pilules de quatrième génération. Mais sauf que c'est le scandale à venir. On verra quand est-ce que ça sortira.
Bon, le rhume, pas besoin de médicaments, on l'a compris.
Oui, vous avez raison sur les anti-inflammatoires. Et aussi, attention, quand vous avez mal à la gorge, souvent les gens veulent prendre un anti-inflammatoire. Et tous les phlegmons que j'ai pu voir, c'est des personnes qui s'étaient automédiquées.
Tous les quoi, Jimmy ?
Les phlegmons de gorge, c'est un espèce d'abcès de la gorge. C'est une méga angine qui nécessite parfois une intervention chirurgicale. C'est des gens qui ont pris de l'Advil, de l'aspirine, de l'ibuprofène, parce qu'ils se sont dit c'est anti-inflammatoire, ça va calmer votre douleur. Sur l'instant, vous allez mieux, vous avez moins mal. Mais quelques temps après, ça flambe. Donc il faut les éviter. Les vous avez raison. Et surtout, il faut le dire lorsque vous en prenez et que vous allez voir votre médecin. Puisque ce qui est surtout contre-indiqué, c'est l'association entre les comprimés que vous allez prendre en libre service chez le pharmacien et la prescription de vasoconstricteurs dans le nez que votre médecin va rajouter. Et donc, l'utilisation des deux va faire que vous êtes à haut risque de développer des complications neurologiques ou cardiaques. Maintenant, cette période, souvent, on a des patients, lorsqu'ils ont le nez qui coule, hors Covid, qui veulent des antibiotiques, docteur, pour éviter que ça tombe sur les bronches, on l'entend toujours.
Ça va tomber sur les bronches.
Ça va tomber, ouais.
Chaque année, en novembre, je fais une bronchite.
Comme les tuiles tombent du toit.
Voilà. C'est ça, exactement. On est d'accord
que c'est
pas...
vrai, c'est une image parlante qui est séduisante. Souvent, il faut s'en méfier des images parlantes et séduisantes. Donc effectivement, la rhinopharyngite, c'est un rhume, c'est viral. Donc ça ne fait pas des bronchites bactériennes graves ou des pneumopathies bactériennes. Par contre, effectivement, le fait de congestionner un peu cette sphère ORL peut faire en sorte que les trompes d'Eustache, c'est-à-dire le lien entre la bouche et les oreilles, marchent moins bien et peut favoriser les otites, elles, bactériennes. Donc ça existe, c'est vrai, mais ça n'est pas des situations graves. Et quand on a une otite bactérienne, je vous assure qu'on le sait et ça ne le prévient pas. Mettre les antibiotiques avant l'otite ne prévient pas l'otite. Donc il faut faire très attention à ce genre d'idée trop simple.
Mais docteur Pio, on termine avec ça sur le rhume, mais un rhume, ça peut traîner aussi parfois, malgré tout, et dégénérer en autre chose. À partir de quand on s'inquiète et là on consulte? Un rhume, ça passe en combien de temps?
Alors un rhume, généralement, c'est une semaine, hein, grosso modo, ça peut aller facilement jusqu'à 10 jours. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure si les symptômes perdurent. En revanche, s'il y a une fièvre qui dure trop longtemps, notamment chez un enfant, si on a une fatigue qui s'accentue, qui est anormale, si une personne âgée perd de l'autonomie ou devient confuse, là, oui, on s'inquiète, mais pas juste à cause des signes typiques du rhume.
Sylvia, en cette période de l'année, on parle souvent de grippe, de syndrome grippal, mais finalement, les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous rappeler précisément quels sont les symptômes? Et on est d'accord qu'un syndrome grippal doit vous faire suspecter en cette période du Covid?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de symptômes en commun. On va avoir, dans les deux cas, une fièvre importante qui peut s'approcher de 40 degrés. On va avoir une grande fatigue, des frissons, des courbatures, une toux sèche, une gêne respiratoire. Enfin, tout un tas de symptômes comme ça qui sont communs avec la Covid-19. Donc, dans ces cas-là, on va chez son médecin, là aussi, parce qu'il faut savoir vraiment d'où provient ces symptômes.
Docteur Piau, un syndrome grippal, donc on y revient. Même si à la base, on est en bonne santé. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Tous les auditeurs le savent, j'ai eu la Covid et ça a commencé un dimanche par des frissons, de la fièvre pas très élevée. J'avais 38,5. Mal partout, c'était vraiment comme une grippe. Mais quand on a ces symptômes-là, il faut faire un test Covid.
Oui, clairement, oui. Donc les signes les plus fréquents de la Covid, c'est la fièvre, la toux, la fatigue. Et en deuxième position arrivent les courbatures, les diarrhées, les mal à tête, etc. Donc effectivement, un syndrome grippal qui associe courbatures et fièvre principalement, ça ressemble fort au Covid, beaucoup plus que le rhume ou la rhinopharyngite. Et là, il n'y a pas de doute, il faut consulter.
Le petit bâtonnet dans le nez, le test PCR ou les antigéniques aujourd'hui qui sont faits.
Oui, hein, il faut dire aux gens, il y a des tests antigéniques qui peuvent être faits chez le médecin, en pharmacie aussi.
Quand on a des symptômes, on peut y aller. Hein.
Et même chez les asymptomatiques, vous n'avez pas de symptômes et il ne faut pas être qu'à contact. Vous pouvez y aller si vous avez des symptômes et que vous vous présentez dans les 4 jours. Car après, la charge virale diminue dans le nez et il y a un risque que ces tests antigéniques ne marchent pas.
Qu'on ne trouve plus de virus.
Et si vous avez plus de 65 ans ou vous êtes fragile ou à risque, vous ne devez pas faire ces tests antigéniques. Vous devez aller au laboratoire puisque ces tests sont un peu moins fiables. Et chez les personnes fragiles, on ne veut surtout pas passer à côté. Donc il faut faire plutôt attention. Mais on est d'accord que les symptômes, docteur, ils sont très large et donc
complètement.
Et parfois on peut croire qu'on n'a qu'un rhume, mais en ce moment j'insiste, je sais que c'est pénible qu'on dit aux gens il faut se faire tester, mais là c'est une période un peu particulière.
Tout à fait. Alors une chose en plus, il y a un site gouvernemental d'autodiagnostic qui est pas mal fait. Vous tapez autodiagnostic Covid, vous avez un site du ministère de la Santé qui marche pas mal du tout.
Permet de faire un peu le tri, quoi.
Ouais. Et après effectivement, comme vous l'avez bien dit, les symptômes sont toujours atypiques chez les personnes âgées, mais c'est pas propre au Covid. Hein. C'est vrai pour l'infarctus du myocarde, c'est vrai pour l'attaque cérébrale. Donc nous on est habitué à travailler dans ce contexte d'incertitude, mais chez la personne âgée peut y avoir des présentations tout à fait différentes de la Covid, comme les diarrhées, la confusion, etc. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant.
Merci à tous les deux. On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 pour cette émission spéciale en partenariat avec le magazine Tempo Santé, dont vous êtes rédactrice en chef, Sylvia Pinoza. Vous êtes en ligne avec nous. Sur notre plateau, également le docteur Antoine Piau, gériatre au CHU de Toulouse et l'auteur du livre 24 heures dans la vie du corps humain aux éditions du Rocher. Alors, avec vous deux aujourd'hui, on décrypte les symptômes des maux de l'hiver et surtout, on apprend à les différencier de la Covid. Et justement, en hiver, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une gastro et des vomissements, mais surtout de la diarrhée, je crois. Ça fait partie de la Covid-19, Sylvia, hein?
Oui, alors c'est des symptômes qui sont moins fréquents, mais dans 30% des cas, ils sont présents. Diarrhée, vomissement.
Docteur Piau, je crois que c'est surtout chez les personnes âgées, vous le disiez un petit peu tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Chez eux, vraiment, on les retrouve plus souvent. Hein.
Exactement, ouais. On a des présentations très atypiques chez les personnes âgées, beaucoup plus fréquemment que chez les personnes jeunes. Déjà, donc la Covid, pour le coup, on doit le suspecter devant toute situation anormale. Et comme je le disais, c'est un peu le cas de manière générale. Plus on est âgé, plus on a de maladies, plus on prend de médicaments et plus la présentation des maladies est un peu trompeuse. Et plus il faut être prudent et plus on a recours à des examens complémentaires qu'on n'aurait pas forcément fait chez des gens plus jeunes.
Le gastrique, c'est aussi chez les petits, vous me disiez, je crois, Jimmy, pendant la première vague, je me souviens, vous m'aviez raconté ça.
C'est vrai
ça.
Qu'on a les symptômes. Alors, parfois, on s'est trompé, c'était peut-être qu'une gastro-entérite, donc c'est difficile de l'évaluer. On a l'impression que c'est parfois les tout petits qui ont des signes digestifs et puis les plus anciens. Et d'ailleurs,
deux extrêmes de la vie, finalement, on a un petit peu les mêmes.
Et justement, avec les personnes âgées, on est très vigilant parce que même si ce n'est pas le Covid, si jamais elles ont mal au ventre, si elles ont des vomissements, il faut être très vigilant parce que ça reste comme les enfants, finalement, des personnes fragiles. Donc, même si c'est pas le Covid, c'est peut-être horrible de dire, quelque chose de pire et plus grave. Donc,
tout à fait.
Vigilance s'il y a des signes digestifs chez une personne âgée.
Tout à fait. Alors, je ne peux pas être plus d'accord. Et d'ailleurs, chez une personne âgée, à partir du moment où il y a une anorexie, donc pas d'appétit, une diarrhée, des vomissements ou quoi que ce soit, il y a des gros risques de déshydratation, même en hiver, pas qu'en période caniculaire. Et comme l'organisme résiste moins bien aux chocs, quels qu'ils soient, cette déshydratation peut engendrer des dysfonctionnements du rein et des accidents avec les médicaments que l'on prend habituellement.
Bon, c'est bon, vous nous avez fait flipper. On a compris que c'était horrible.
C'est capital parce que quand on prend des médicaments, y compris des bons médicaments, Quand on est dans cette situation de risque de déshydratation, il faut systématiquement le signaler au professionnel de santé pour voir est-ce que je ne dois pas, par exemple, stopper temporairement un de mes médicaments, qui est pourtant un bon médicament que je dois prendre tous les jours.
Sylvia, on n'est pas encore à la fin de l'année, mais on le sait, il y aura bientôt les fêtes de fin d'année. Alors, on ne sait pas du tout à quoi vont ressembler cette année. Mais quand, là, on parlait de gastro-entérite, de choses comme ça, mais il y a aussi tout ce qui est intoxication alimentaire avec les aliments un peu festifs, type fruits de mer. Comment on prévient ce risque ? Vous en parlez dans Tempo Santé.
Oui, alors c'est souvent des mesures de bon sens, hein, c'est respecter la fraîcheur des aliments, bien respecter la chaîne du froid, les temps de cuisson. Ça a l'air tout simple, mais c'est souvent bien et bien suffisant pour éviter ces intoxications alimentaires d'une bactérie ou une toxine.
Oui, c'est bon, les huîtres.
Il faut respecter la chaîne du froid, hein, et puis la fraîcheur, voilà, ça c'est bien pour les huîtres. Et puis aussi il faut être prudent, parce que c'est vrai que souvent, on a tous des souvenirs de réveillons comme ça, un peu pourris, un peu gâchés, parce qu'on n'a pas été assez vigilants. Et puis, si on est malade, pareil, il vaut mieux consulter, même si on n'est pas fragile, parce que l'attaque peut être assez
violente. C'est pour ça que vous mangez de la pizza, Noël, Jimmy, aucun risque avec la pizza.
Pour me réconcilier avec les ostréiculteurs, les intoxications alimentaires, c'est pas les huîtres si souvent que ça. Hein. Souvent, on focalise sur les fruits de mer, mais c'est pas si fréquent que ça.
Je vous raconterai l'histoire du Noël dernier avec les huîtres que j'ai mangées qui ont... Mais j'ai un thermomètre dans l'estomac, j'ai senti que ça n'allait pas, ma femme s'est moquée de moi, je lui dis non mais il y a un truc qui va pas, j'ai été vomir, je ne sais pas si c'est psychologique mais j'allais mieux, donc voilà, je me suis débarrassé de ce corps étranger, je ne mangerai plus d'huître, c'est terminé. Sylvia, quand on a une intoxication alimentaire ou si on a une petite gastro, est-ce qu'on peut céder des prébiotiques ou des probiotiques? Dans l'esprit de certains, c'est un truc de bobo et ça ne sert à rien, mais est-ce que ça peut nous aider?
Bah oui, ça peut nous aider. Et puis c'est pas seulement des compléments alimentaires qu'on va acheter à la Biocoop du coin. Ou c'est aussi on peut aussi l'intégrer à notre nourriture. Hein. Par exemple, les probiotiques, on va les trouver dans les légumes, les légumineuses, les fruits, les amandes, les pistaches, les probiotiques, on va les trouver qui vont nous permettre de réensémencer notre flore intestinale. On va les trouver dans les yaourts, dans le kéfir, dans la sauce soja, dans la choucroute. Donc on fait pas l'impasse. Et puis surtout en ces moments aussi d'épidémie. Où les virus circulent, ça va renforcer cette alimentation-là, probiotique, va renforcer notre immunité. Donc, c'est une bonne idée à tous les niveaux.
Docteur Pio ?
J'ai eu très peur, mais en fait, je suis d'accord avec vous. Donc, en fait, si on a une alimentation équilibrée, notamment en termes de fibres, on a les prébiotiques et les probiotiques nécessaire notamment parce qu'on a une flore intestinale en bonne santé. Et aller chercher des prébiotiques ou des probiotiques en gélules, c'est un non-sens complet, alors qu'on sait ce qu'a démontré la science.
Sauf si on mange que des pizzas comme Jimmy, là ça vaut le coup peut-être. Hein.
Mais ce qu'a démontré la science, c'est qu'il faut mettre des épinards sur la pizza de Jimmy, pas qu'il faut aller
chercher
des gélules à la pharmacie.
Et d'ailleurs, quand on parle de cette flore intestinale, c'est souvent un argument auquel les parents sont sensibles, c'est lorsqu'ils veulent des antibiotiques, je leur dis que ce n'est pas bon justement pour leur flore digestive, puisque lorsqu'on consomme trop d'antibiotiques, eh bien à ce moment-là, on abîme ce microbiote et que sur le long terme, on sait que ça va avoir des conséquences. Donc ça marche pas mal. Et autre bobo de l'hiver, Sylvia, on parle souvent du gel hydroalcoolique, puisqu'on s'en tartine peut-être un peu moins bien. Est-ce que ça peut abîmer la peau à la longue? Et puis, est-ce qu'il y a une façon de choisir un bon gel hydroalcoolique?
Oui, alors on a tous en ce moment la peau un peu sèche, hein, parce qu'on surutilise le gel hydroalcoolique. Peut-être on opte trop souvent pour lui et on oublie que se laver les mains, c'est aussi efficace, sinon plus. Pour éviter tout ça, on peut utiliser évidemment des crèmes. Et puis, quand on le choisit, il faut éviter une liste de compositions à rallonge. L'OMS a préconisé une formule très courte avec 4 composants et elle est bien suffisante pour se débarrasser des virus. Et elle est aussi moins allergisante et moins attaquante, entre guillemets, pour nos mains.
Docteur Pio ?
Absolument, l'alcool c'est un déshydratant, une grosse cuite c'est principalement une déshydratation, et de la même manière
qu'il faut éviter à tout prix.
Et donc quand on veut déshydrater des tissus pour les analyser, on utilise de l'alcool, donc l'alcool ça déshydrate la peau, il n'y a aucun doute là-dessus.
Docteur Pio, quand les températures baissent, il y a aussi dans les maux de l'hiver le cœur qui peut trinquer, il n'aime pas trop le froid, je crois pas plus que le chaud d'ailleurs. Quel effet a le froid concrètement sur le cœur?
Alors c'est un peu comme la saisonnalité, ça commence tout juste à être étudié. Ce qu'on sait, c'est effectivement que pendant les deux premières semaines des grands froids, il y a plus d'accidents cardiovasculaires. Et de la même manière, quand il y a des canicules, c'est le cas aussi. Donc vraisemblablement, ça serait la variation brutale de température qui demanderait au corps soit un effort pour thermoréguler, pour garder la même température pendant un certain temps, soit des effets directs sur les vaisseaux en les dilatant, en les vasoconstrictant de manière un peu brutale. Donc ça serait vraisemblablement surtout les variations.
Ce qui veut donc dire que si jamais on a des symptômes quels qu'ils soient, il ne faut pas se dire c'est le Covid ou rien, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 ou à consulter rapidement.
Ah oui, tout à fait. Mais clairement, la partie immergée de l'iceberg, dont on parle un peu plus que pendant la première vague, mais pas suffisamment, c'est clairement les gens qui sont mal soignés pour d'autres pathologies. Et même si on veut pousser plus loin aussi, la pauvreté qui crée des morts et des problèmes de santé.
Sylvia, pour terminer, dans le contexte Covid, malgré tout, là on vient parler du cœur et du froid, mais dans le contexte Covid, on sait aujourd'hui que ce virus, il impacte le cœur aussi, hein.
Oui, il est clairement identifié comme l'une des portes d'entrée du SARS-CoV-2 et puis la fréquence cardiaque qui va s'accélérer au repos, qui va aussi s'accompagner de troubles neurologiques, tout ça, l'infection va malmener notre cœur.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier du jour en partenariat avec le magazine Tempo Santé. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, il est en kiosque évidemment, une mine d'infos, David Expert au prix de seulement 4,95€. Merci beaucoup.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors il est temps de passer à présent à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur la luminothérapie. Savez-vous dans quelle indication la lumière peut venir au secours de notre santé? Est-ce que n'importe quelle lampe d'ailleurs peut faire l'affaire? Notre journaliste Benjamin Lévesque est allé tester vos connaissances sur la luminothérapie justement. On écoute ça, ce que ça donne.
Des bains de lumière et non de soleil.
Et effectivement, le ciel gris que l'on peut avoir à longueur de temps sur une période automnale, hivernale, justement, ça le balaye un peu à travers la luminothérapie. Certaines couleurs, certaines lumières qui sont bonnes quand on manque en hiver, quand on manque de lumière, du soleil. Il y a des lampes spéciales pour gagner en vitamine D, je crois.
Pour justement éviter ce blues, cette dépression d'hiver.
Pour se sentir moins fatigué, pour teint aussi, mais c'est surtout pour avoir un effet de pêche, quoi. C'est-à-dire avoir la forme et voilà.
On peut le faire à l'institut spécialisé et on peut le faire chez certains dermatologues.
S'acheter une lampe, soit aller prendre l'air dehors tant qu'on peut prendre l'air.
UV, ça va jouer sur la chaleur. La luminothérapie, c'est plutôt sur une ambiance générale.
Jimmy, bon, reprenons la luminothérapie, soignée par la lumière, par vos lumières. Non, je plaisante.
Si, ça marche aussi,
C'est quoi concrètement la vraie, pas celle avec vous?
La vraie, c'est celle avec moi, mais celle qui va peut-être vous aider, c'est la vraie lumière. C'est s'exposer justement à une lumière blanche artificielle qu'on dit à large spectre. Alors, c'est un peu complexe comme ça, mais finalement, c'est de la photothérapie. C'est le traitement par la lumière. On va s'exposer, au niveau de notre visage essentiellement, à une lumière artificielle d'un petit appareil qui va permettre de resynchroniser votre horloge biologique.
Parce qu'elle mime la lumière du soleil.
Exactement.
Hein,
et notre cerveau fonctionne en grande partie grâce à la lumière qui va synchroniser tous les rythmes biologiques, le sommeil, la température, la tension. Et à ce moment-là, la lumière pourra vous aider.
Alors cette photothérapie, luminothérapie, elle est principalement utilisée contre la dépression saisonnière. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser aussi, la luminothérapie, dans d'autres indications?
Alors oui, vous avez raison Mélanie, l'utilisation principale, c'est la dépression saisonnière. Et on sait que ça marche. C'est pas un truc de bobo. On a tendance à se dire, voilà, la lumière, ça va te faire du bien.
Vous aimez bien les trucs de bobo aujourd'hui.
Mais oui, parce que parfois, il y a un côté méprisant de ces techniques bien alternatives. Et on aime bien prendre des médicaments alors que peut-être on peut soigner différemment.
Efficace,
une médecine complémentaire, mais fondée sur les preuves, puisque ça marche. Et on sait que ça peut aider dans d'autres pathologies, des pathologies du trouble du comportement, parfois dans la maladie de Parkinson, sur les troubles du comportement associés. Et on sait aussi que sur la vraie dépression, celle qui n'est pas liée à la lumière, pas la dépression saisonnière, on sait que si on fait luminothérapie plus traitement antidépresseur,
ça marche mieux
qu'un traitement antidépresseur. Donc c'est un vrai traitement qui est sous-utilisé, parfois méprisé, alors qu'il pourrait nous faire du bien.
Alors justement, dans la dépression saisonnière qui nous guette quand même là, cette période, ça y est, les jours, il fait nuit plus tôt, on déteste cette saison, ça c'est clair. On déprime, comment on l'utilise, ça agit comment?
C'est simple, vous l'avez dit, les journées sont plus courtes, les nuits plus longues, et donc votre cerveau, la rétine, est moins exposée à la lumière. Et à ce moment-là, vous avez une perte de la synchronisation de votre horloge biologique qui va sécréter moins de mélatonine. Et à ce moment-là, vous allez avoir cette mélatonine qui va être perturbée, vous allez plus dormir, plus manger et être un peu déprimé.
Et crever.
Et la lumière permet de resynchroniser cette mélatonine pour enfin repartir son bon rythme au bout de quelques temps.
Alors comment ça se pratique la luminothérapie, mais pas celle avec Jimmy Mohamed, la luminothérapie tout court?
Alors la vraie luminothérapie, c'est dans un cadre médical qu'on peut le faire dans un centre de médecine du sommeil. Évidemment, le nombre de séances, la durée, ce sera au cas par cas. Mais parfois, on peut aussi, via le médecin, louer ces lampes qu'on peut aussi acheter sur Internet. Mais attention,
attention là, parce que quand c'est le médecin qui l'a prescrit et qu'elle est louée, on est sûr d'avoir une lampe
exactement.
De qualité. Si on l'achète soi-même,
c'est autre chose. Il faut que ce soit un dispositif médical avec un marquage CE pour être sûr que c'est quelque chose d'adapté à une pathologie et que ce n'est pas simplement du bien-être.
Quand on fait ça chez soi, c'est à quel moment en général de la journée qu'il faut faire la petite séance?
Alors, c'est des lampes très spéciales qui délivrent 10 000 lux. Ça vous paraît bizarre, mais par exemple, en journée, une pièce qui est très illuminée, c'est 100 000 lux.
Wow, c'est énorme, ouais.
Moi, quand j'arrive dans la pièce, c'est 200 000 lux.
Oui, bien
donc
sûr.
C'est beaucoup
ouais. Et moi, 300 000, vous
et
savez.
Et vous, c'est 300 000 lux. Mais en gros, on a besoin
on
de
est dans
10
l'assurance
000
chère,
lux. Plutôt le matin, entre 6h30 et 7h30, 30 minutes à 1 heure par jour sont largement suffisants, mais il faut le faire pendant plusieurs semaines. Minimum 2 semaines, mais il faut en général 6 semaines avant d'avoir des résultats, et parfois un peu plus longtemps. Le taux de réussite est très bon. On peut atteindre jusqu'à 75% des gens qui vont mieux avec cette luminothérapie.
Mais si on est sérieux et qu'on fait bien les séances tous les jours, Jimmy, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque éventuel? Vous disiez, c'est une médecine douce qui a fait ses preuves, par contre, mais il y a peut-être des risques même pour les yeux, par exemple.
Oui, collez pas votre tête contre la luminothérapie. c'est un conseil de bon sens. Mais attention, si jamais vous avez des pathologies de la rétine, de l'œil, à ce moment-là, comme une cataracte, une rétinopathie liée à votre diabète, évidemment que c'est contre-indiqué. Donc, il faut demander conseil au médecin pour savoir si vous pouvez le faire.
Très bien, je peux le faire, vous croyez, Jimmy? Ça va me faire du bien ou ça suffit d'être exposé à vous
je
régulièrement?
Je pense que ma simple présence suffit à l'humanité, ah ouais, mais pas
bon.
Qu'à vous, Mélanie.
Ouais, très bien, merci pour cette optimisme et ces lumières, Jimmy, merci beaucoup.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sans rendez-vous et c'est sur Europe 1 avec Jimmy Mohamed. Et vous, Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, on a une question de Corinne que je vous lis tout de suite. J'ai 42 ans et j'ai l'impression que ces derniers temps, je suis moins lubrifiée lors des rapports sexuels. Pourtant, je suis toujours excitée par mon compagnon et pas du tout ménopausée. Comment est-ce possible et que faire? Catherine, la sécheresse vaginale que décrit donc Corinne, en général, c'est assez étonnant cette question parce que c'est vrai que c'est soit causé souvent par la ménopause ou par le psy, non, la psychologique.
Alors, déjà, il faut comprendre ce qu'est la lubrification. Quand une femme est excitée, eh bien, son vagin va être chargé comme un pénis le serait au moment de l'érection, particulièrement donc de sang. Et du coup, ça fait une transsudation au niveau des petits vaisseaux qui fait donc cette lubrification qui se dépose dans le vagin. Mais sachez que de toute façon, un vagin n'est jamais sec. Mmh. C'est une muqueuse, elle est toujours évidemment lubrifiée. Sauf que, évidemment, il y a deux facteurs. Si je ne suis pas excitée, il y a un afflux sanguin moins important, donc un
moins
travail
de lubrification.
De lubrification. Ouais. Et si je suis ménopausée, il y a une paroi qui est plus
qui
fine,
s'amincit, ouais.
Qui s'amincit. Et donc, du coup, comme il y a moins une muqueuse moins épaisse, eh bien, il y a moins de transsudation, moins de lubrification.
Mais elle dit qu'aucun des deux. Alors, c'est étrange.
Alors,
peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai.
Voilà. Mmh. Ou je pense qu'il faut revoir la notion d'excitation, mmh. C'est-à-dire que c'est peut-être, elle peut être excitée si on la touche, la stimule, etc. Mmh. Mais dans le relationnel, la relation a pu être un peu... Enfin, on peut avoir, vous savez, dans un couple, des moments où on a des rancœurs, où on a des petits contentieux ou des petites déceptions quant à l'autre qui viennent un peu brouiller ce qui mécaniquement pourtant pourrait se faire fonctionner, mais pas psychiquement, pas fantasmatiquement. Ou alors, elle est dans un temps de pré-ménopause.
Oui, ce qui est possible. Enfin, 42 ans, c'est un peu jeune. Mais
oui,
bon,
mais il y a des ménopauses qui sont très, très tôt. Vous savez qu'il faut interroger les mamans pour avoir à peu près l'âge de la ménopause d'une femme. Et certaines femmes sont ménopausées à 35, quand d'autres sont ménopausées à 55.
Donc, allez regarder quand même de ce coin-là, de ce côté-là, ça ne serait pas inintéressant.
Bien sûr.
Du coup, qu'est-ce que Corinne peut faire en fait dans cette situation? Est-ce qu'on cherche absolument, pardon, un petit lapsus?
J'ai pas 42 ans moi déjà.
Oui,
hein,
je crois qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi, enfin, je ne sais pas, c'est des problèmes. Bref, c'est pas le sujet. Mais alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit essayer de régler le problème ou tout simplement de remplacer par des lubrifiants pour régler le problème de façon artificielle?
Alors, bien sûr que dans un premier temps, je pense que il faut bien sûr d'abord aller vérifier qu'on est dans des choses physiologiquement où tout va bien, et on peut effectivement mettre mettre des lubrifiants qui permettent de rendre la sexualité agréable, parce que si elle n'est pas agréable, ça va entraîner par voie de conséquence une lubrification de plus en plus difficile, parce qu'elle sera dans la crainte de l'inconfort qui deviendra douleur. Donc effectivement, les lubrifiants sont une bonne chose. Maintenant, dans la mesure où on peut essayer de... Il faut que ça soit joyeux, il faut que ça soit amusant, ou que ce soit très intime fait de son côté avant de passer dans la chambre à coucher, pour que ça ne soit pas vécu comme un sacerdoce et une culpabilité qui encombre la relation elle-même.
Oui, parce que la femme se sent souvent coupable de ces situations. L'homme pourrait dire, c'est de ta faute, regarde.
Oui, Jimmy pourrait se rendre plus attirant. Enfin, le mari de Corinne pourrait se rendre plus attirant.
Voilà, c'est que on pense que le problème vient de la femme. Alors peut-être que quand il y a des problèmes de ménopause ou des médicaments, on peut le comprendre,
bien sûr,
la maladie.
Bien sûr.
Mais là, peut-être qu'il faut qu'on arrête de rendre coupables les femmes et que les hommes, peut-être aussi, se réinvestissent un peu plus dans la relation.
Oui, parce que souvent, les hommes, quand ils ont des problèmes d'érection, les femmes prennent très fortement à elles l'idée « mais t'inquiète pas,
c'est toujours la faute des femmes,
grave ». Non, mais elles jouent volontiers les infirmières.
Quelle déficience du côté féminin comme masculin, c'est toujours la faute de madame, de toute façon. Hein,
bien sûr. Mais c'est parce qu'elles jouent aussi, elles investissent.
On aime bien faire les victimes, jouer les victimes.
Non, les infirmières de l'autre. Oui. Et puis, voilà, donc du coup, elles sont plutôt assez... tendre et rassurante pour les hommes la plupart du temps, il y en a qui ne le sont pas, mais la plupart du temps, quand les hommes effectivement, eux, je dois t'exciter comme je dois te faire jouir. Donc il y a obligation d'être excité, obligation de jouir, sinon je suis remis en question dans ma compétence et ça n'irait pas. Donc évidemment, soyons un peu plus doux les uns avec les autres. Comme vous le disiez, il y a des raisons iatrogènes aussi, donc il y a des médicaments, imaginons par exemple certains traitements qui ont pour vertu de sécher, comme par exemple des traitements d'acné, qui et qui font que tout d'un coup, vous avez mal aux yeux parce que vos lentilles, elles collent, mais aussi au niveau vaginal.
Donc peut-être dans un premier temps, consulter d'abord son médecin, parce qu'il y a peut-être une raison biologique, physiologique.
Il faut éliminer qu'il n'y a pas un médicament, donc des raisons iatrogènes à cette difficulté, éliminer la question éventuellement d'une préménopause, pour mettre dans le confort de
petit bilan hormonal pour vérifier tout ça.
Et puis après, s'interroger aussi sur la réelle qualité de la relation et la réelle qualité des jeux amoureux et érotiques, pour pouvoir petit à petit après se dire, eh bien, tout ça étant éliminé, on s'amuse et il y a des gels et tout ça est formidable et on s'aime très fort.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, à demain. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Alors,
vous croyez au hasard, vous, Mathieu ?
Oh, ben alors, j'y crois forcément et je crois que le hasard fait bien les choses puisqu'il nous a réunis, Stéphane.
Ah, non seulement ça, mais eux aussi, ils ont cru au hasard. Vous avez Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique par hasard, Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline par hasard, et vous avez trouvé qui a réussi sa vie par hasard ?
Quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de chance dans sa vie, Harrison Ford, vous savez, qui a joué Han Solo, qui a joué Indiana Jones, vous savez comment il a commencé ?
Non.
Ébéniste.
Par hasard.
Ébéniste, et il faisait des travaux chez George Lucas.
Ah ben ça aide.
Merci beaucoup messieurs, très beau programme. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.